Chers auditeurs, la deuxième conférence de carême de Notre-Dame de Paris du cycle de cette année, l'Église vraiment sainte, va nous être donnée par le Père Guillaume de Mantière, curé et théologien, l'Église de Pierre, une structurée indéfectible.
Chers frères et sœurs, et vous tous qui nous écoutez sur KTO, Radio Notre-Dame et France Culture, nous allons contempler aujourd'hui le visage de Pierre, le rocher choisi par le Seigneur pour édifier son Église. Selon la plus haute vraisemblance archéologique, suite aux fouilles ordonnées par le pape Pie XII, les reliques de Pierre sont bien situées sous l'autel majeur de la basilique qui porte son nom. En entrant à Saint-Pierre de Rome, les pèlerins posent leurs mains sur le pied de l'apôtre qui a reçu le pouvoir des clés. Ce geste de piété populaire exprime la vérité de la foi. Nous croyons en l'apostolicité de l'Église. Notre foi n'est pas fondée sur un mythe, mais sur l'expérience réelle d'un homme qui a vu, entendu, touché le Christ, qui l'a trahi parfois, qui a finalement donné toute sa vie pour lui dans le témoignage suprême du martyr. Nous sommes du sang des martyrs, comme on le dit, des membres d'une même famille. Merci au Père Guillaume de Mantière de nous faire grandir dans la contemplation du chef des apôtres qui a laissé la force de Dieu se déployer dans la faiblesse et dont la vie illustre si bien la devise du pape François, « Miseando atque eligendo ». En me faisant miséricorde, le Seigneur m'a choisi.
Merci, Monseigneur. Ce matin, nous lisions l'évangile de la transfiguration du Seigneur. Au pied du mont Tabor, lieu supposé de cette transfiguration, se trouve un village palestinien du nom de Dabouria. Et dans ce village, les restes d'une église ancienne appelée, dit-on, l'église des neuf apôtres. Jésus ayant emmené avec lui pour être témoin de sa gloire, Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient neuf, en effet, le reste des douze, à faire le pied de grue, si j'ose dire, au pied de la montagne, ignorant ce qui se tramait là-haut, et sans doute légèrement dépités de n'avoir pas été choisis parmi les trois privilégiés dont le maître s'était entouré. C'est que manifestement, le Christ, qui aime tout être humain, d'un amour éternel et infini, appelle chacun à des rôles particuliers. Il veut le bien de tous, mais il ne donne pas tous les biens à tous. C'est un des points sur lequel la mentalité égalitariste de notre époque achoppe souvent. Tout ce qui est donné à l'un, pense-t-on aujourd'hui, doit être aussi donné à l'autre sous peine d'iniquité. Il n'y a pas de raison. Si quelqu'un possède quelque chose, tout le monde y a droit. Sans quoi, il faut dénoncer le pire des crimes, la discrimination. Ces sortes de conceptions égalitaristes sont poussées de nos jours à un tel paroxysme qu'il faut que je vous narre l'aventure qui m'advint tandis que j'expliquais au catéchisme l'appel des douze apôtres par Jésus. Une petite fille, courroucée, Amélie, se leva pour dénoncer une injustice. Je crus qu'elle allait faire droit à quelques revendications féministes, réclamer qu'il y eût des femmes parmi les douze, ou que les petites filles puissent devenir prêtres comme tout le monde, ou quelque autre exigence de cet ordre bien dans l'air du temps, mais pas du tout. Amélie était bien plus cohérente. Elle poussait la logique égalitariste jusqu'en son dernier retranchement. L'injustice qu'elle prétendait dénoncer était en quelque sorte la mère de toutes les injustices. « Moi, dit-elle avec un aplomb qui me laissa abasourdi, moi je trouve que c'est injuste que ce soit toujours le même qui soit Dieu. » Il faudrait que ça change. Un peu comme dans les cours de récréation, ce n'est pas toujours le même le chat. Il faut que les rôles puissent passer de l'un à l'autre. Et cette petite fille étonnante nous expliqua, les bras croisés et le front buté, qu'elle attendait son tour d'être Dieu. Elle n'en démordrait pas. Sinon, tout simplement, elle ne jouerait plus. Les enfants, nous le savons, ont souvent des intuitions théologiques profondes. Et de fait, il n'est pas faux que nous soyons appelés à être Dieu. Sans avoir lu les Pères de l'Église, Amélie reprenait à sa manière un peu raide l'intuition du grand Athanase. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais comme son aïeule, Ève, la petite écolière devait apprendre à recevoir comme un don ce qu'elle revendiquait comme un droit. Oui, Amélie, c'est bien la vie divine que le Seigneur a résolu de te donner, non pas pour que tu règnes à sa place, mais pour que tu partages sa vie et son bonheur. L'anecdote que je viens de conter dit bien mieux, ce me semble, que toutes les explications du monde, la difficulté qu'éprouvent nos contemporains à accepter le choix de Dieu. Pourquoi certains sont-ils manifestement mis à part? Pourquoi Israël plutôt que les Gaulois? Pourquoi Jésus a-t-il choisi Pierre, Jacques et Jean sur la montagne et non pas les 9 autres? Pourquoi d'ailleurs a-t-il choisi ces 12-là et non pas Lazare, qui était pourtant son ami, ou Madeleine, qui lui était si affectionnée? Pourquoi? Parce que chacun a son rôle et sa place dans l'écosystème ecclésial. Le mouvement écologiste, si puissant de nos jours, tend à nous faire considérer les différences au sein de l'univers créé comme une richesse à protéger. Il en va de même pour la Sainte Église. Chacun y a une place et une mission spécifique et non interchangeable pour le bien de la communauté tout entière. Lorsque Clément de Rome, un des tout premiers papes, écrit vers l'an 96 sa lettre aux Corinthiens, il emploie des arguments écologiques. Pour mettre fin aux séditions qui se trament à Corinthe, il montre que le même Dieu qui a créé l'univers a aussi fondé l'Église. Et puisque le cosmos et l'Église ont le même auteur, une même harmonie doit y régner. De même que Dieu créa un univers infiniment bigarré, avec de multiples créatures, les plus diverses, et cependant parfaitement unifiées dans la paix, de même a-t-il pourvu son Église de fonctions, de charismes, de ministères variés, qui doivent se compléter dans la concorde. Ainsi, l'obéissance au pasteur légitime est-il le premier comportement écologique? Voilà qui donne à réfléchir. L'anarchie est une pollution. Il existe un lien entre la préservation de la nature, l'ordre du cosmos et le respect de la hiérarchie ecclésiale. Contrairement à certaines illusions naïves, il n'a jamais existé, en effet, même brièvement, au temps des apôtres, une communauté enthousiaste dont la ferveur partagée aurait été la seule règle et la seule loi. Dès l'origine, le cercle des disciples a été structuré et organisé par le Maître. Au fond, l'écologie est le nom moderne de la vertu de tempérance. Une de ses manifestations primaires est le bénédicité, cette prière de début de repas qui ancre en nous la reconnaissance pour le don reçu et nous arrache à une mentalité de propriétaire. Tout ne nous est pas dû et nous remercions le Seigneur pour le fruit de la terre et du travail des hommes. L'Église est le champ de Dieu, dit saint Paul. Nous tirons de cette plantation divine, avec gratitude, notre nourriture spirituelle. Nous pouvons désirer que ce champ soit plus performant, vouloir changer de culture, extirper les mauvaises herbes, mettre des engrais de toute nature qui amélioreront le rendement. Mais prenons garde. Il y a les pesticides de l'erreur séduisante qui, à la longue, s'avèrent néfastes et ruineux. Il y a ces haies qui enserrent la parcelle et dont nous voudrions nous passer pour l'agrandir en je ne sais quel remembrement irresponsable. Il y a des mauvaises herbes pécheresses que nous prenons pour telles parce que peut-être nous ignorons leur rôle bénéfique dans l'économie générale. Il y a des lois dogmatiques de saine agriculture qu'on ne peut violer sans amère déconvenue. L'Église, champ de Dieu, n'est pas d'abord le champ de toutes les expérimentations possibles, ni le terrain d'éclosion des revendications les plus diverses. Elle est un don merveilleux à recevoir avec gratitude et à cultiver avec responsabilité, selon des lois que nous n'avons pas à déterminer nous-mêmes, mais dont le céleste jardinier l'a pourvu. Dans cette divine agriculture, le Christ est à la fois le champ, la semence et le cultivateur. Il n'est pas en effet d'autre fondement de l'Église que Jésus lui-même. Durant ces 3 années de vie publique, nous le voyons tout occupé à agréger autour de lui un cercle de disciples. Voilà bien l'étonnant. Le Christ ne nous a laissé aucun écrit, aucune œuvre d'art, aucune grande découverte scientifique. Il n'a pas conquis de royaume ou révolutionné les lois de la cité. À quoi s'est-il attaché ? À constituer autour de lui un groupe, à façonner une communauté chargée de le continuer. Que nous reste-t-il, tout compte fait, de son passage sur la terre? Rien d'autre, sinon l'Église, c'est-à-dire ce ramassis d'hommes et de femmes glanés sur les routes de Palestine, qu'il a agrégé en un corps et structuré de manière bien précise. La révélation qu'il porte, Jésus ne l'a pas confiée à un livre, mais à l'Église. Il a appelé les 12 et a mis Pierre à leur tête, articulant ainsi la primauté et la collégialité. Les évangiles nous relatent quel soin le Christ apporta au choix des apôtres, destinés à être les colonnes de l'Église. Ce ne fut manifestement pas une mince affaire. Jésus ne les a pas désignés à la légère. Il n'a pas tiré au sort ou pioché à l'aveuglette. Lui, le propre Fils de Dieu, il ne juge pas superflu de passer toute une nuit en prière avant d'appeler les 12. Prier toute une nuit, pourquoi ? Parce que Jésus ne s'attribue pas à lui-même ses disciples. Il les reçoit de la main du Père. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Frères chrétiens, voilà bien le trait qui nous définit le mieux. Nous sommes les cadeaux que le Père fait à Jésus. Nous ne sommes pas des dossiers archivés dans les registres du ciel ou des numéros matricules. Nous sommes ceux que le Christ reçoit de la main du Père et pour lesquels son cœur tressaille dans la nuit où il prie. L'Église n'est pas née de fidèles qui se seraient réunis de leur propre initiative pour perpétuer le souvenir de Jésus, sans quoi il pourrait y avoir plusieurs églises, comme il y a plusieurs chapelles d'obédience bonapartiste ou marxiste. Non, l'Église est une parce qu'elle est voulue, rassemblée, structurée par le Fils unique. Au regard de la suite des événements, on peut juger que la sélection des apôtres opérée par le Seigneur n'était pas très judicieuse. Pourquoi ces 12, humainement si peu performants, et qui allaient se montrer si défaillants le moment venu ? Comme les pensées de Dieu nous dépassent. Choisir un traître parmi les 12, un renégat comme chef, un zélote et un publicain ensemble comme apôtres, était-ce bien raisonnable ? Le choix de Pierre, à qui allait être confiée l'Église, exigeait une particulière attention. Qu'avait-il donc pour mériter d'être ainsi distingué parmi ses pairs ? Traçons un peu mieux le portrait déplorable de ce pêcheur de Galilée dont le Seigneur allait faire un pêcheur d'hommes. Retrouvons-le sur la montagne de la Transfiguration. Pierre eut en effet ce privilège inouï de contempler le Christ nimbé de lumière. Voyons-le éberlué devant la gloire de son Seigneur, bouche bée. On aurait bien compris, assurément, que Pierre resta quoi au spectacle de tant de splendeur céleste. Mais l'Évangile nous rapporte que le bon apôtre prononça une parole qui paraît frappée de démence. « Seigneur, veux-tu que nous dressions ici 3 tentes ?»« Et quoi, grand Saint-Pierre, est-il besoin de meubler la conversation par ces tentes dérisoires ?» Le grand silence respectueux n'était-il pas seul de mise devant des révélations si hautes ? Que nous parles-tu de camping et de bivouac ? Est-ce le moment pour un barbecue ? Frères et sœurs, familiers du monde biblique, nous le savons bien, les tentes auxquelles Pierre fait allusion évoquent probablement la fête des tentes, cette fête juive de Soukhot qui commémore l'exode du peuple hébreu au temps de Moïse. Chaque année en Israël, on se souvient de ce temps fondateur où l'on a habité sous des huttes, des cabanes, des abris de branchage et de fortune. C'est la fête des tentes. Au grand jour de la fête, le temple de Jérusalem était entièrement illuminé. Il resplendissait de flambeaux innombrables. Voilà ce qui est, c'est le cas de le dire, bien éclairant. Au moment précis où là-bas, sur la colline de Sion, le temple d'Hérode se pare de 1000 lumières, Jésus, éblouissant sur le Tabor, se révèle comme le vrai temple en qui habite corporellement la plénitude de toute divinité. N'y a-t-il pas, si j'ose dire, pour des mystères si hauts, comme un pied de nez de la part du Seigneur, d'ironie en tout cas. Vous pouvez bien faire feu de toutes vos loupiottes. Moi, je suis la lumière du monde. Vous pouvez vous bâtir des demeures somptueuses. Moi, je suis le vrai temple qui n'est pas fait de main d'homme. Que la transfiguration du Seigneur ait eu lieu durant Soukhot est donc assez probable. Or, le passage de saint Matthieu, qui nous le rapporte, commence par ces mots « 6 jours plus tard ». De toute évidence, la manifestation glorieuse du Seigneur succède à une autre scène qui eut lieu une semaine auparavant. Il n'est guère difficile de percevoir, en remontant un peu notre évangile, que la scène en question est la confession de Pierre à Césarée de Philippe. À la question du Seigneur, « Pour vous, que dites-vous que je suis ?» C'est Pierre, décidément toujours prompt à parler, qui a répondu au nom de toute l'Église. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, se sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, se sera tenu dans les cieux pour délier. » On est frappé du caractère très solennel de la déclaration de Jésus. Elle est tellement explicite que plusieurs commentateurs, issus du monde réformé, ont voulu y voir une interpolation tardive mise sur les lèvres de Jésus pour justifier les prétentions du siège de Rome. Plus personne, même parmi les exégètes protestants, ne pense cela désormais. Le jeu de mots araméen sur Képhas, le sémitisme des expressions, lié et délié, chair et sang, tout porte témoignage de l'authenticité de cette parole du Christ, véritable institution de la primauté pétrénienne. Il faut dire que si notre hypothèse d'une transfiguration liée à la fête des tentes est exacte, alors la confession de Pierre à Césarée prend cadre dans la liturgie du Yom Kippour. En effet, une semaine avant Soukhout, la liturgie juive célèbre le jour du grand pardon. Que se passait-il ce jour-là? C'était l'unique jour de l'année où le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints et prononçait le nom ineffable, le nom de Dieu. Voyez, frères et sœurs, s'il n'y a pas une merveilleuse convenance à ce que le pêcheur du lac, disciple de Jésus, confesse la divinité de son maître au moment précis où le grand prêtre articule les quatre lettres du nom de Dieu dans le temple. Il y a plus qu'une coïncidence. Pierre, bien mieux que tous les grands prêtres, est entré dans le Saint des Saints, dans le mystère de Dieu avec nous. Pierre, bien mieux que les pontifes, a nommé celui qui est Dieu, béni au-delà de tout. C'est bien pourquoi le Seigneur manifeste à son disciple qu'il est établi désormais grand prêtre du culte véritable. À plusieurs reprises, les évangélistes mentionnent laconiquement que le Seigneur revint à la maison. Qu'entendent-ils par là? Est-ce la maison de son Père, le sanctuaire du Très-Haut à Jérusalem? Est-ce l'établi de Saint-Joseph à Nazareth? Ou encore la maison de Marthe, Marie et Lazare à Béthanie? Non. Voyez, s'il vous plaît, quelle est la maison du Seigneur. C'est à Capharnaüm, au bord du lac, une humble maison de basalte, la pierre volcanique du pays, dont les pauvres se servaient pour construire leurs abris. Cette demeure de roc grossier, c'est la maison de Pierre qu'il partageait avec sa belle-mère, et c'est là que Jésus habitait. C'était sa maison, disent tout bonnement les évangélistes. Car c'est toujours dans l'église de Pierre que le Seigneur habite. Simon, Pierre, Jean-Paul, Benoît, François, changement de nom, mais pas d'adresse. L'un, Clé, Clément, Innocent, Pi, Grégoire, c'est toujours dans la maison de Pierre qu'habite le Verbe de Dieu. Quel honneur, quel prestige pour le petit patron pêcheur. Tout est moustillé par le rôle et l'attention spécifique que lui accorde le Seigneur. Pierre croit pouvoir tout régenter. Lorsque Jésus annonce à ses disciples que le Fils de l'homme aura à souffrir et à mourir, le sang du fougueux apôtre ne fait qu'un tour. « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Alors fuse cinglante la réponse. « Va des rétros, Satanas !» Quelle douche froide !« Passe derrière moi, Satan !» Pierre était déjà prêt à chausser la tiare, et le voici remis à sa place. Il voulait jouer les gardes du corps du Seigneur et il aura, effectivement, la garde de ce grand corps du Christ qu'est l'Église. Mais rien ne se passera comme il l'avait prévu dans sa simplification de croyance. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Il n'est pas non plus devant ou sur les côtés, il est derrière. À vrai dire, c'est une tentation permanente pour tous les chrétiens de faire leur œuvre pour Dieu plutôt que de laisser l'œuvre de Dieu se faire en eux. On devient aisément des entrepreneurs en christianisme plutôt que des disciples du Christ. C'est la tentation de tirer Jésus à soi, comme Pierre tirant le maître par la manche pour lui faire de vifs reproches. La tentation de devancer le Christ, de caracoler en tête, de prendre en main les affaires du bon Dieu, à la place de ce grand maladroit de Jésus qui ne sait pas très bien s'y prendre, qui n'y connaît rien en marketing et en com. Ce pauvre Jésus, il ne sait pas se vendre. Ainsi pensait Judas. Dans ma paroisse, je me pose souvent la question. Jésus est-il vraiment le pasteur de tous ces projets que nous nommons si facilement pastoraux? Un jeune me livrait un jour la clé d'une conversion spectaculaire. Autrefois, disait-il, je priais Dieu pour qu'il m'aide. Maintenant, je le prie pour qu'il me guide. Sentez-vous la différence entre un adjuvant et un pasteur, entre un auxiliaire et un maître? Simon-Pierre devra apprendre à suivre. Il n'en a pas fini d'ailleurs de ses stupéfactions devant le comportement si déconcertant de son maître. Assoyons-nous avec lui à ce dernier repas que voulut prendre le Christ avant de mourir. En cette nuit du jeudi saint, nous voyons Simon-Pierre se rebiffer. C'en est trop de voir son maître à ses pieds. Il proteste, chacun doit tenir son rang. Quelle extravagance de parler et d'agir comme un dieu, et après cela, de laver les pieds de ses disciples comme un vulgaire esclave païen. Sachant que le Père a tout remis entre ses mains. C'est ainsi que s'ouvre en saint Jean le récit de la Passion. Or, ses mains plénipotentiaires, nous les voyons essuyer amoureusement les pieds de ses disciples. Ses mains qui détiennent tous les dons du Père, les voici à présent baignant des pieds qui, quelques instants plus tard, vont courir dans la nuit pour trahir les pieds de Judas. Mieux, ces mêmes mains, entre lesquelles le Père a tout remis, seront clouées, trouées, crevassées, laissant couler par leur béance tout le pouvoir reçu du Père et qu'il renonce à exercer. Oui, le Christ n'a pas harpagonné le rang qu'il égalait à Dieu. Toutes les prérogatives divines, il les abandonne et les laisse par amour s'échapper de ses mains percées. On comprend que Pierre ne comprenne pas. La peur, au moment décisif, achèvera de l'aveugler et l'amènera à renier son maître. L'Évangile ne fait pas mystère de ce triple reniement. « Je ne connais pas cet homme !» dit l'apôtre choisi. Et le coq se met à chanter. Quelle aubaine et quel miracle, frère chrétien, que de la flèche écroulée de Notre-Dame, on ait pu retrouver le coq. N'y a-t-il pas, dans ce fait providentiel, un signe qui nous est donné? Il dit beaucoup au peuple de France, le fier gallinacé, dressé sur tous les clochers de notre pays. C'est un miracle, c'est un animal très gaulois et très évangélique, le coq. Par le même chant, il dénonce le reniement et annonce le dénouement de la nuit. Il nous fait pleurer nos péchés nocturnes et nous tourne vers l'aurore de la miséricorde. Il est l'image de cette Église qui déambule dans les ténèbres du monde, proclamant la bonne nouvelle du jour qui vient. Puisse le chant de l'Église éveiller beaucoup d'âmes à la lumière. On sait comment, après Pâques, au bord du lac, le Seigneur allait manifester son pardon à l'apôtre renégat. 7 disciples étaient sur la barque. Lorsque le ressuscité fit abonder dans les filets les poissons d'une pêche miraculeuse. Ce filet, c'est l'Église, la nasse de Pierre, ce pêcheur d'hommes. Lancé dans le cirque aveuglant du monde, c'est l'Empire bientôt qu'il fera entrer dans le filet, intrépide rétière de la bête romaine. L'abondance surnaturelle de poissons aurait dû faire craquer le filet de toutes parts, mais il ne se déchira pas. Il ne connut pas de schisme, dit littéralement l'Évangile, précisément parce qu'il représente l'indivisible Église. Cette unité, Pierre se devra de la servir, comme Jésus ressuscité lui en assigne la mission. Autour d'un feu de braise, qui rappelle celui où Pierre s'est échauffé, dans la cour de son triple reniement, le Seigneur interroge par 3 fois son disciple. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Voilà l'apôtre, mis face à son péché et à son impuissance. Et pourtant, c'est bien à ce disciple indigne que le Seigneur confie son troupeau. « Paix, mes brebis, quelle miséricorde !» Non seulement Pierre est pardonné par le Christ, mais il se voit confirmé dans sa mission de conduire l'Église. « Paix, mes agneaux !» Cette parole n'est pas adressée au groupe des apôtres, mais au seul Simon-Pierre, et elle est répétée 3 fois. Manifestement, Jésus confie à Pierre un rôle spécifique. Dira-t-on qu'il lui octroie simplement une dignité, une certaine préséance, une primauté d'honneur ? C'est là une idée bien peu évangélique et toute mondaine. Le Christ ne distribue pas des médailles et des titres. Il confère des missions et donne la grâce pour les accomplir en esprit de service. Pour conduire une Église qui offre à tous les hommes le pardon de Dieu, il fallait un chef qui en eût fait l'expérience pour lui-même. Il est bon d'avoir perçu les fragilités de Saint-Pierre. Ce ne sont pas ses vertus humaines qui rendent l'apôtre inébranlable et apte à être le rocher qui soutient l'Église. Bien au contraire, les évangiles se plaisent à nous tracer le portrait d'un Pierre chancelant, d'un homme de peu de foi, d'un nain de l'adhérence, comme dit Chouraki. Ce qui rend la foi de Pierre infaillible, ce n'est pas son courage, sa lucidité ou toute autre vertu dont il semble bien dépourvu. Ce qui fait que Pierre ne peut sombrer, c'est la main du Seigneur qui le hisse sur le navire et le retient de sombrer dans la faiblesse où il était plongé. Ce qui donne sa fermeté à la foi de Pierre, c'est la prière que Jésus fit pour lui. « Simon, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Depuis le jour de la Pentecôte, Pierre prend la parole pour exprimer la foi de l'Église. Nul ne remit en cause ce jour-là sa préséance dans une communauté primitive où pourtant tant d'autres pouvaient se prévaloir de quelque primauté. Jean, le disciple que Jésus aimait, les frères du Seigneur, André, le premier appelé. Mieux, Pierre semble personnifier toute l'Église qui se concentre en quelque sorte en lui. Que j'aime cette page des Actes des Apôtres où l'on voit tous les disciples unanimes priant sans relâche pour Pierre emprisonné par le Sanhédrin. Car toute la communauté se sent incarcérée quand son chef est dans les fers. Ubi Petrus, ibi Ecclesia, dira tout bonnement saint Ambroise. Le pape n'est pas le vicaire de l'Église, mais le vicaire du Christ, qui se tient au milieu de nous comme celui qui sert. Serviteur des serviteurs de Dieu, le pape est le garant de la communion. Pas l'éteignoir de toute initiative ou de toute velléité d'innovation. Pierre n'est pas un roc qui écrase, mais le rocher qui supporte et qui soutient. L'Église n'a pas un cœur sec, elle est le temple de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit, c'est-à-dire l'amour de Dieu, et non pas le pape, qui l'a fait vivre. Dans ses célèbres Fioretti, Saint Jean XXIII, Angelo Roncalli, raconte qu'en 1959, peu après avoir, par une aspiration assez inattendue, annoncé l'ouverture d'un nouveau concile, il eut quelques difficultés à trouver le sommeil. Dans quelle aventure avait-il lancé, peut-être inconsidérément, l'Église ? Un soir, qu'il ruminait ses pensées sans parvenir à s'endormir, il entendit intérieurement une voix qui lui disait « Angelo, qui est-ce qui conduit l'Église ? C'est le pape ou le Saint-Esprit ? Oh, c'est le Saint-Esprit, Seigneur, c'est le Saint-Esprit ! Alors dors, Angelo, dors !» Dans le Credo, l'Église est mise en rapport avec l'Esprit-Saint. L'Église est à ce point unie à l'Esprit qu'elle partage avec lui le même symbole. Elle est la colombe, cette colombe unique d'une blancheur immaculée que le Seigneur a aimée. Presque inévitablement dans notre langue et dans notre mentalité cartésienne, lorsqu'on parle de l'esprit, on l'oppose à la matière. On a tôt fait de supposer que l'esprit ne peut susciter qu'une église toute mystérieuse, intérieure, invisible, subtil, à mille lieues de la lourde machinerie d'une église corporelle, extérieure et visible. La tentation d'opposer ainsi une communauté toute spirituelle à un organisme grossièrement charnel est aussi récurrente que pernicieuse. C'est, selon les mots du cardinal de Lubac, hypostasier un rêve et vouloir séparer ce que Dieu a uni. Car l'Écriture fait d'une Église visible la condition de l'existence d'une Église invisible. Il y a un seul corps et un seul esprit, dit l'apôtre. Faut-il le rappeler en effet ? C'est par l'Esprit-Saint que le Verbe prend chair. Dans la religion de l'incarnation, l'arbre de la grâce est raciné profond, pour parler comme Peggy. Le spirituel est lui-même charnel. Souvent, je reçois des fidèles qui viennent me parler de leur vie spirituelle. Ils me racontent alors leur retraite chez les bons pères, l'excellence ou les difficultés de leurs oraisons, les illuminations dues à la lecture d'un ouvrage pieux. Tout cela est très édifiant. Mais n'y a-t-il pas une méprise sur le qualificatif spirituel? La vie spirituelle n'est-elle pas la vie selon l'esprit? Or, l'esprit ne nous porte pas uniquement et sans doute pas principalement à des exercices de piété ou de dévotion. Il nous plonge aussi bien au fond des marmites, pour parler comme Thérèse d'Avila. Car Dieu n'est pas moins présent dans le service fastidieux de la vaisselle que dans nos élévations théologiques. Pourquoi les chrétiens, évoquant leur vie spirituelle, ne me parlent-ils pas de leur enfant malade qu'il a fallu soigner, de ces réunions qui se sont enchaînées au travail, des attentions qu'ils ont pour leur époux, leur épouse ? Pourquoi le spirituel n'est-il jamais repéré dans le banal et le quotidien, dans la trame de l'existence concrète ? Nous arrachant à un dualisme platonicien et cartésien et entrant pleinement dans la logique de l'incarnation, nous professons une Église bien tangible et concrète, celle qui s'incarne dans des communautés bien réelles, celle qui est structurée par une hiérarchie que l'Église, que Jésus a voulu et à laquelle l'Esprit donne le charisme de l'autorité. Comme l'exprimait avec force Louis Bouillet, une Église invisible est la même chose que pas d'Église du tout. Une Église qu'on ne peut ni voir ni toucher est une chimère, mais pas l'Église de Jésus. Le Verbe incarné continue de gouverner et de faire vivre son Église par un double moyen, par la hiérarchie qu'il institue et par l'Esprit qu'il communique. Deux modes inséparables de l'influence de notre chef, le Christ, sur son corps, l'Église. L'Église n'est pas un corps invertébré qui doit se protéger par une carapace. Elle a au contraire été dotée par son Seigneur d'une structure hiérarchique qui lui permet de tenir en ce monde. Elle est pourvue d'un magistère, celui des évêques, en communion avec le pape, qui lui permet de n'être pas ballotté à tout vent de doctrine, tout en restant sensible au vent et aux signes des temps. Quelle force que de pouvoir professer la vérité sans être soumis à élection, à audimat ou à part de marché. Beaucoup de nos contemporains peuvent au moins reconnaître cela. Dans notre société liquide, société d'opinion malléable selon les humeurs du temps, l'Église est ce pôle solide préservé de toute démagogie. Elle n'a pas à flatter les lecteurs, à brosser le chaland dans le sens du poil ou à courir après l'audience. Si l'Église n'est pas une girouette, elle n'est pas non plus un blocos, blindé de toutes parts dans ses dogmes et ses traditions. Elle est plutôt comme la grotte du Sauveur à Noël. Quand les maisons se calfeutrent et se cadenassent, la grotte, elle, reste toujours ouverte. Quand les palais s'écroulent, quand les forteresses finissent par s'effondrer, la grotte, elle, demeure aussi indéfectible que la montagne dont elle a creusé le flanc. Belle figure de l'Église, indestructible et accueillante, enracinée et ouverte, solidement plantée et fidèlement généreuse. La grotte, les entrailles de la terre, les entrailles maternelles de la terre, figurent l'Église mère, l'Église de Marie. Nous le verrons dimanche prochain.
La semaine prochaine, nous entendrons à nouveau le Père de Mantières sur le thème « L'Église de Marie, sainte, joyeuse, maternelle ». Et pour la prise de son, nous remercions Arthur Dumont et Adrien Gaza.